tuerie.
Du lundi au vendredi à partir de 17h.
Faut que tu sois concentré.
France Inter. La différence.
15h03 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Selon le journal Sud-Ouest Dimanche de cette triste Toussaint, le dernier ours pyrénéen, Camille, est mort. La race est en voie d'extinction. Les quelques ours restants des deux côtés des Pyrénées sont des étrangers, originaires de Slovénie, d'Europe de l'Est. Il est scandaleux qu'il faille compter sur des ours roms, voire tziganes, pour sauver une race autochtone bien de chez nous, avec tous les risques inhérents de métissage, de cosmopolitisme, de dégénérescence. Monsieur Hortefeux-Besson, au lieu de vendre la peau des ours sans papier, ferait mieux de se porter au secours de la pureté de la race ursine. Merci.
Et si le changement d'heure, c'était l'occasion de changer de montre? Et si le changement de montre, c'était l'occasion de changer de politique? Et si on balançait toutes les Rolex pour les remplacer par des montres LIP?
On connaît bien les guignols de l'info. Mais on connaît moins bien le guignolo de l'intox. Quand le guignolo de l'intox s'agite et parle dans la télé, il faut deviner le bras qui remonte sous sa veste trop longue et qui lui donne vie. Ce ne sont pas moins de 3 marionnettistes qui animent le guignolo de l'intox. Le banquier, Michel Pébereaux, l'assureur, Claude Bébéard, et le parrain politique, Édouard Balladur. Les deux premiers donnent les grandes lignes du discours et le troisième écrit les textes. Par exemple, ils ont décidé que François Fillon devait rester Premier ministre. Alors le guignolo fait semblant d'hésiter, donne aux journalistes plusieurs noms, mais au final, il gardera Fillon à Matignon. Et il ne peut pas encore savoir que pour 2012, les marionnettistes ont décidé de le ranger au magasin des accessoires et de présenter cette fois-ci un vrai candidat. Alors François et Jean-François se préparent et sont déjà partis à l'échauffement.
Ici, on y est, et on y reste, à Saint-Brieuc. L'intersyndicale a réinvesti la maison du peuple, fermée depuis quelques années. Quelle émotion. Réinvesti et non occupé, comme on a pu l'entendre ici ou là-bas. Car jusqu'à plus ample informé, c'est écrit sur le fronton. Maison du peuple. Alors on attend le peuple. Chaque jour, à partir de 17-18 heures, pour une AG permanente. Bienvenue chez vous, Jean-Luc Saint-Brieuc. Tiens à vous.
Bonjour. Pour avoir été soigné pour un cancer du sein à l'hôpital de Nyon il y a quelques années, je tiens à dire ma solidarité avec les grévistes. Car en effet, pendant mes divers séjours ou mes séances de soins, de chimiothérapie, etc., j'ai pu constater combien toutes ces personnes étaient débordées. Infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, tout le monde était d'une gentillesse, d'une disponibilité, alors que visiblement, ils et elles devaient courir toute la journée. Eh bien, quand ils étaient avec le patient, ils étaient avec nous, avec, je vous le dis, une énorme gentillesse, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai bien observé, car j'y suis restée souvent et longtemps, à quel point ils étaient, on peut dire, exploités. Alors, chers amis, je vous dis, votre ancienne patiente Isabelle, qui maintenant est migrée dans le Var, vous dit, tenez bon, bonne chance et bon courage.
Pour le monde capitaliste, la Terre est un support. Hein, il se trouve que le capitalisme est arrivé sur Terre, est apparu sur Terre. Le capitalisme se pratique sur Terre. Ça l'aurait été sur Mars, il le pratiquerait sur Mars. Ça aurait été sur la Lune, il le pratiquerait sur la Lune. Demander à un capitaliste d'avoir des états d'âme par rapport à l'environnement, par rapport à la planète Terre, c'est comme si on demandait à un moteur de bagnole d'être gentil, ou qu'il fasse des câlins, ou qu'il ait lui aussi des états d'âme. Donc ça ne ressemble à rien. Il ne faut absolument rien attendre du système capitaliste. C'est tout.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Vous le savez, demain aux États-Unis, c'est les élections à mi-mandat, les midterms, et Obama a du souci à se faire. Face à une vague réac profonde, le Tea Party, qui risque de remettre en cause la politique pourtant bien modérée de Barack Obama, notamment la réforme de la santé dont l'application risque d'être compromise, si ce mouvement parvient, comme on le suppose, à reprendre la Chambre des représentants et le Sénat. C'est actuellement toute une Amérique profonde, poujadiste, ultra-réactionnaire qui se manifeste depuis des mois. Vous pouvez en avoir un aperçu en vous baladant sur le net. Je vous recommande Fox News, bien évidemment, et je vous recommande un certain Glenn Beck qui est tout à fait extraordinaire dans le genre. Ça, c'est le côté excessif, évidemment, de l'histoire. Il se pourrait bien que cet électorat mérite plus d'attention sur ce qu'il vit et les raisons de son attitude et de son vote. Nous, pour l'occasion, on va revenir sur un thème qui est présent dans cette campagne, c'est le créationnisme. Le créationnisme, c'est-à-dire ce qui s'oppose à la théorie de l'évolution et à la théorie de Darwin. C'est une vieille histoire qui connaît des rebondissements, qui apparaît sous des masques différents. C'est toute la logique de la science qui est remise en question par cette irrationalité extrêmement profonde. Bref, un sujet passionnant et qui reflète profondément cette Amérique-là, celle, entre autres, des Tea Party. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Si l'on en croit les médias conventionnels à large diffusion, les Français sont convaincus depuis le début de la réforme du gouvernement Sarkozy qu'elle est incontournable et nécessaire. Et la protestation est purement formelle. La mobilisation, seulement un rituel syndical obligé. Le mouvement, essoufflé depuis la mi-septembre. Les grèves, presque imperceptibles pour les usagers. La pénurie d'essence n'a jamais été à craindre. Il n'y a pas eu de violence démesurée antérieure à l'irruption des casseurs, ni de chiens lâchés sur des lycéens, ni de flashballs tirés sur des jeunes peu agressifs, ni de grenades explosives jetées par la police sur des manifestants pacifistes à Lorient, ni de place Bellecour transformée en camp de rétention à ciel ouvert pendant toute une journée. D'ailleurs, les lycéens ne sont même pas entrés dans le mouvement, sauf ceux qui sont, hélas, manipulés par des responsables gauchistes. Et les étudiants ne reprendront pas la mobilisation après les vacances. Chaque journée d'action est la der des der. Il n'y a pas eu le moindre soupçon de commencement d'une grève générale. La majorité des Français souhaitent que le mouvement s'arrête maintenant que la loi est votée. Les manifestants donnent déjà rendez-vous pour 2012. Nicolas Sarkozy n'a pas de frère, il n'a qu'un fils, Jean, qui fait de la politique, et un autre qui écrit des textes de rap. Même s'il avait un frère et que celui-ci était un membre éminent du MEDEF, celui-ci n'aurait pas de responsabilité majeure dans un gros groupe d'assurance s'apprêtant à fusionner avec une caisse publique pour récupérer la manne de l'épargne retraite rendue nécessaire par l'appauvrissement prévisible des pensionnés du régime collectif. Et même si c'était le cas, ce serait populiste et démagogique d'y voir un quelconque rapport avec la présente réforme. Réforme qui, rappelons-le, est purement technique, menée sur la base d'un constat démographique évident. Réforme qui est juste, d'autant plus qu'il n'y a aucune autre solution pour sauver le système par répartition, vœu le plus cher de notre gouvernement bienveillant. En conclusion, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est la sécurité sociale.
Le prochain repère de Tréguier, dans les Côtes d'Armor, se tiendra le mercredi 3 novembre au café L'Aigle Noir, à partir de 18h30. Nous y réfléchirons sur la résistance aujourd'hui.
Bonjour Daniel et bonjour à tous. Bonjour aux AMG de Genève, d'autour du Léman, du Jura, des Alpes. Aujourd'hui commence une semaine qu'on dit nous de déformation continue, avec une série de rencontres, de stages, d'ateliers, de conférences avec Franck Lepage et Le Pavé, sa coopérative d'éducation populaire. Ce soir, la conférence de Franck Lepage, l'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, ou une autre histoire de la culture, a lieu ce lundi 1er novembre à 20h, 16 rue Pré-Jérôme à Genève, au 16 rue Pré-Jérôme. Et ce mercredi, même heure, même adresse, il y aura la conférence New Management et démarche qualité, ou exploiter mieux pour gagner plus. Pour tous ces moments en éducation populaire, tous les détails sont à demander à graindesable.ge@gmail.com, graindesable.ge@gmail.com, ou alors vous cherchez la maison du quartier de la Jonction, thème et débat.
Bonjour Daniel, c'est Joseph de Marseille. Merci à l'infirmière psychiatrique qui a dit « c'est pas une réorganisation des hôpitaux, c'est une pénurie programmée ». Et merci aussi à toi de préciser que ces contre-réformes sont en vérité une contre-révolution. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon avant-hier, il faut mener le combat des mots. Parce que les financiers qui tiennent les médias nous fabriquent des mots piégés, comme par exemple le mot « crise ». Et même si on dit « cette crise, c'est la crise des financiers, c'est pas la nôtre », le fait même d'utiliser ce mot, c'est utiliser le même mot qu'une crise cardiaque, c'est-à-dire c'est un problème de santé, on n'y peut rien. Ces mots sont des mots propagande à eux tout seuls. Par exemple, moi, ce que je propose, c'est de remplacer le mot « crise » par les initiales des mots « conséquences des règles imposées par la spéculation économique », C-R-I-S-E. Bon, ce n'est pas un procédé nouveau, c'est le procédé de siglaison qu'a utilisé les médias, par exemple, pour transformer en bouc émissaire le Portugal, l'Irlande et la Grèce, il y a quelques mois, en les traitant de PIG, P-I-G, une lettre par pays. Alors, pour finir, juste un mot à Jean-Luc Mélenchon, pour lui demander de ne plus citer l'expression « parti extrémiste ». Parce que moi, j'ai l'impression que cette expression a été spécialement créée pour nous faire croire que l'humanisme d'un Besançonneau pourrait être équivalente à la xénophobie et patronale d'un Le Pen.
Karl Marx is considered to be the chief founder of communism. Also, he was a professing Christian in his youth. He became an atheist and, according to some, a satanist in college.
Fundamentalism versus modernism.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Entre les deux guerres, déjà, la querelle des anciens et des modernes faisait la une. Évangéliste contre darwinien, créationniste contre évolutionniste, l'homme descend-il d'Adam ou du singe ? Mais voilà que dans la foulée de la poussée des fondamentalistes chrétiens, le sujet revient au galop, avec un vrai procès, une mise en accusation en bonne et due forme du darwinisme.
Sortons de ce couloir, parce que là, il y a Marx, Nietzsche, Darwin. Je préfère pas rester en mauvaise compagnie, là. Je pense que ça risque de perturber notre foi. Viens, viens, Antoine, reste pas là, reste pas là.
Dans leur DVD de propagande, ils partent de l'étincelle initiale, de la complexité de la cellule de base, de l'ADN, que Darwin naturellement ignorait, et en tire la conclusion suivante. Pour expliquer cette architecture complexe, disent-ils, il faut bien qu'il y ait eu, je cite, un designer intelligent, un créateur. Mais le mot n'est jamais utilisé, pas plus que celui de Dieu.
Avec un décor de tube à essai, avec des petits produits verts de toutes les couleurs qui bouillonnent.
Et des bulles et tout, là on nous explique comme quoi la tectonique des plaques c'est faux. On nous explique ici comme quoi le Grand Canyon a été créé avec la main de Dieu. Ici on nous explique que le sélacanthe qui est un fossile vivant, c'est donc bien la preuve que les dinosaures ont pu survivre, certains d'entre eux ont pu survivre au déluge. Les cyclones qui sont une rémanence du déluge.
C'est limpide.
Je veux qu'en sortant, vous puissiez dire « Oui, on reprend les choses en main. » C'est avec ce cri de guerre que j'aimerais vous laisser. On reprend les choses en main. En tant que chrétiens, nous devons réécrire la géologie, la biologie, l'anthropologie. Nous allons revenir à l'histoire telle qu'elle est décrite dans la Bible. On va reprendre les dinosaures et nous allons signifier au monde que nous allons tout faire pour prêcher l'évangile et revenir à l'autorité de la parole de Dieu.
He's available at the moment.
Ah, so we better do it,
it
right now.
It would be good.
Voilà, John Morris, who is the founder.
The president, not the founder. Ah, founder is his father.
Ouais. Le fils du fondateur et qui est le président du centre de recherche créationniste est prêt à nous recevoir maintenant.
Eh ben allons-y, parfait.
Donc c'est pas le père, c'est le fils.
Oui, mais c'est déjà pas mal. Tu sais,
mais on aurait pu voir le Saint-Esprit ou pas?
Oui, bien sûr. Attends.
Bande de mécréants, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Vanctil. Une heure entière entre la Bible et Darwin.
Flight number 2, arriving from New York.
Sur le Colorado, on peut rechercher le grand frisson des rapides, le choc esthétique du Grand Canyon ou une étrange quête spirituelle sur les traces de la Genèse. C'est le cas de ces évangélistes purs et durs. Pour eux, c'est la Bible qui servira de guide.
Si vous prenez la Bible comme référence, si vous avez un regard biblique sur les choses, ce que vous découvrirez, c'est que la réalité correspond à ce qui est écrit dans le livre.
À peine débarqué de l'hélicoptère qui emmène le petit groupe au fond du canyon, Tom Vail va annoncer la couleur, son acte de foi et la théorie qu'il a mise au point.
Pour nous, créationnistes, la Terre a 6000 ans environ. 1500 ans après la création, il y a eu le grand déluge et tout ce que vous voyez ici dans le Grand Canyon, toutes ces strates de haut en bas, sont le résultat de l'inondation qui a suivi.
Et combien de temps ça a pris ?
Pas plus de quelques jours, oui, quelques jours.
Évidemment, c'est en contradiction avec les géologues, pour lesquels le Grand Canyon est le fruit d'un long travail d'érosion sur 2 milliards d'années. Tout le but de la croisière de deux jours sur la rivière va donc être de démolir la théorie scientifique. Et aucun des 21 pèlerins venus écouter la bonne parole ne trouve à y redire.
Pour moi, ce voyage, ça renforce ma foi. Quand on voit tout ça, on se dit que ça ne peut être que la création de Dieu.
Tous ces matériaux, toutes ces formations géologiques, c'est un témoignage de la puissance de Dieu et de sa gloire.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Je m'appelle Dan et nous allons effectuer ensemble un formidable voyage au cours duquel nous allons pouvoir répondre à quelques questions fondamentales. Quelle est la signification de la vie ? Quel est le but de la vie ? Voilà, chers AMG, amis, modestes et géniaux, nous sommes au musée de la création et de l'histoire de la Terre à Santee, en Californie, une banlieue dans les collines près de San Diego. Et ce musée de la création est une annexe de l'Institut pour la recherche sur la création. Alors, on est avec un petit groupe de visiteurs, de papas, de mamans et de gentils enfants. Et alors, on évolue dans différentes salles avec des lumières bleutées, tamisées, des photos géantes de la planète et des citations de la Bible. On apprend que la Terre est âgée de 6000 ans et qu'elle a été créée en 6 jours. La Bible le dit, donc c'est vrai, Dieu est à l'origine du monde. Et à cette époque, les dinosaures ne mangeaient pas de viande et vivaient en bonne intelligence avec les hommes. La mort n'existait pas jusqu'à la malédiction, le péché d'Adam. Nous ne détestons pas les évolutionnistes, dit le guide ou la guide selon les jours. Nous détestons l'évolution. Ça ne marche pas. Voilà. L'évolution, ça ne marche pas. Ce qui marche, eh bien, c'est ça, c'est la preuve. Et on l'a sous les yeux. De quoi vous voulez encore douter ? Alors voilà, vous connaissez ce conflit entre créationnistes et évolutionnistes, entre la Bible et Darwin. Et c'est cette opposition qu'on va faire vivre jusqu'à 16 heures. C'est une opposition, mais en faisant ça, nous faisons une concession aux créationnistes. Parce que c'est exactement le même principe que les révisionnistes ou les négationnistes qui, il y a 30 ans, ont dit « les chambres à gaz n'existent pas ». Et c'est un délire total, évidemment. On avait toutes les preuves, les témoignages de cette tragédie. Mais ils ont insisté. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous voulons discuter avec vous. On veut simplement débattre. On n'est pas sûr de ce que nous avançons. Mais nous voulons débattre avec vous. Théorie contre théorie. Ce qui revient à dire que les chambres à gaz, c'est une théorie comme une autre. Et c'est une façon de mettre en doute et en cause quelque chose qui était évidemment évident. Eh bien, c'est exactement le même système. Et c'est le même attaque en disant « Mais quoi, vous voulez pas débattre ? Donc, vous n'êtes pas des démocrates. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'on dit ? Ah, vous nous censurez, vous ne voulez pas, etc. » Et c'est ce qui se passe aux États-Unis depuis pas mal d'années. Et on va voir que ces théories, cette démarche des créationnistes, eh bien, gagnent peu à peu aussi notre Europe, même notre France. Parce que les créationnistes se déguisent. Il y a tout un côté, évidemment, grotesque, comique, etc., de ces croyances qui nous font rigoler. Mais ils ont réussi à habiller outrement. Eh oui, l'adversaire change de masque. Leurs idées, et en les présentant d'une façon scientifique, cette fois à travers le ID, c'est-à-dire l'intelligence design. On va voir tout ça d'un peu plus près, jusqu'à 16h là-bas si j'y suis. Bible ou Darwin.
Au commencement des temps, il n'y avait rien que le vide, le désordre et les ténèbres. Et il y avait Dieu. Et Dieu décida qu'il fallait créer le monde.
En sortant de ce couloir, parce que là il y a Marx, Nietzsche, Darwin. Je préfère pas rester en mauvaise compagnie là. Je pense que ça risque de perturber notre foi. Viens, viens Antoine, reste pas là, reste pas là. Monsieur va nous répondre à la question.
Oui, oui. Oui. Alors vous avez apprécié la visite? It's wonderful.
C'est merveilleux.
Oui, oui. I have never seen the Creation Institute, but I have always believed in the biblical creation.
Je ne connaissais pas, j'étais jamais venu à l'Institut créationniste, mais j'ai toujours cru à la création d'après la Bible.
Voilà. What can I say? Yeah.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
D'accord. D'accord. Donc vous pensez que effectivement Dieu a d'abord créé l'eau, l'air, la terre, etc. Ce qu'il nous a expliqué ici, ça vous semble, ça vous convient? Oh yes.
Ouais. Very ouais, much. C'est so. Ça. Exactement.
We are modern. Bible is old.
Nous, on est des contemporains. La Bible est ancienne.
I want new stuff.
Moi, je veux quelque chose de neuf.
Bible's not good enough.
La Bible, c'est pas assez bien.
I'm smart.
Moi, je suis quelqu'un de malin.
I know what happened.
Moi, je sais ce qui s'est passé.
That's all wrong.
Tous ceux qui pensent ça, ils se trompent.
I have to go back to the old values.
Non, il faut revenir aux vieilles valeurs, aux valeurs anciennes.
C'est-à-dire lesquelles?
Hard work.
Travail dur.
Community.
La communauté, être ensemble.
Charity.
La charité.
Love.
L'amour du prochain.
Family values.
Les valeurs de la famille.
Without these, we, as a people, worldwide, cannot succeed.
Sans ça, nous, en tant que peuple et à travers le monde entier, on ne pourra pas y arriver.
Quelle est votre position sur l'avortement?
I am against abortion.
Je suis contre l'avortement.
The union of a human man and a human woman is going to be a human. It will not be a dog, a cat, a horse, a pig or a cow.
L'union d'un homme et d'une femme, tous les deux humains, ça créera un être humain, pas un chien, un chat ou un poisson.
Yeah. So donc, I am against abortion.
C'est donc pour ça que je suis contre l'avortement.
Oui, évidemment.
Voilà les réactions d'un visiteur de ce musée de Santee, donc à côté de San Diego. Il y a d'autres musées comme ça à travers les États-Unis, un autre grand qui est un parc d'attractions d'ailleurs de la Kentucky. Et ce que dit ce monsieur là, c'est pas très folklorique, hein. C'est pas on a pris un cas particulier, caricatural. Non, non, c'est ce que pense une bonne partie des États-Uniens, des citoyens des États-Unis, et ça donne une idée des précautions que les candidats doivent prendre vis-à-vis de cet électorat qui majoritairement partage les convictions de ce visiteur.
Day 3, when God made all the plants, and that we don't have some of them today, and they're found in the fossil record.
Le troisième jour, Dieu a créé des plantes.
And how they were really big.
Et on a retrouvé des plantes énormes. Savez-vous, il y a des cafards dans les fossiles qui font 40 cm de long. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au quatrième jour? Alors, levez-vous et allons jusqu'au jour suivant, le quatrième jour.
a loupé les trois premiers jours.
On arrive pour le jour 4, hein. C'est une salle obscure avec des
enfants qui sont assis dans cette salle obscure. Right, now, très souvent, ce sont leurs parents qui sont avec eux derrière.
Alors, les règles, c'est que tout le monde doit être bien assis, pas sur les genoux, asseyez-vous, les jambes croisées. Mm-hmm. En tailleur.
All right, somebody look around and tell me what God created on day 4.
Yes. Qu'est-ce que Dieu a créé le quatrième jour?
The stars and what else?
Les étoiles, oui, quoi d'autre?
You know, there are planets and comets and other things out in our universe, but we believe that God created all the other
planètes,
heavenly bodies
les comets, tout ce qu'il y a dans le ciel. Eh bien, Dieu a créé tous les corps célestes le quatrième jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom d'une planète?
Yes.
Saturn.
Saturn.
Yes.
Jupiter. Venus. All right. And the thing you'll notice about our planets and our solar system is there's only one planet with life on it. Right?
Which planet is that? Il y a une seule planète sur notre système solaire qui abrite la vie, c'est laquelle? Oui, c'est la Terre.
Muséum national d'histoire naturelle, la Galerie de l'Évolution, Paris.
Où nous retrouvons Guillaume Lecointre. On passe d'un musée à l'autre. D'un musée, ce musée en Californie, le musée de Santi, des créationnistes, et nous sommes à Paris avec ce scientifique, ce zoologiste et systématicien français qui, entre autres activités, se bat contre ces théories fumeuses.
Je suis Guillaume Lecointre, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et directeur du département qui s'appelle Systématique et Évolution, un département de recherche dans l'établissement.
Alors là, vous êtes devant un énorme squelette.
Une baleine.
Une baleine. Mmh. Voilà. Donc on est à la Galerie d'Évolution, et c'est ce mot évolution qui fait qu'on a envie de vous rencontrer, qui s'oppose, auquel on oppose le mot de création. Est-ce que vous pouvez poser alors, le débat, vous allez nous dire que ce n'est pas un débat, hein, entre l'évolution, c'est-à-dire les thèses de Darwin sur lesquelles vous travaillez, et ce qu'on appelle aujourd'hui le créationnisme.
L'opposition évolution-création, elle ne se pose pas dans le secteur des sciences. Cette opposition, elle se pose sur le terrain philosophique ou sur le terrain métaphysique. Et là, en tant que scientifique professionnel, je n'ai rien à dire. Par contre, à l'intérieur des sciences, nous ne sommes pas outillés en science pour statuer sur une création. Une création, qu'est-ce que c'est? C'est une entité extérieure à la nature et qui agit sur elle. Nous n'avons pas de moyens expérimentaux pour avoir accès à cette entité, donc pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas testable, on ne peut pas statuer dessus. Par contre, l'évolution, ça, on peut expérimenter l'évolution sur des organismes à temps de génération court. Donc n'oubliez jamais qu'il n'y aurait pas d'industrie agroalimentaire, pharmacologique ou phytosanitaire s'il n'y avait pas le phénomène évolutif comme phénomène biologique, expérimentable. Donc l'évolution, faut rappeler effectivement que c'est un fait expérimentable et c'est aussi la théorie générale dans laquelle la biologie, l'anthropologie et la paléontologie travaillent aujourd'hui.
John Morris, Institut de recherche créationniste, San Diego.
Welcome. Come in. I'm a geologist.
Voilà, monsieur est un géologiste.
My name is Dr. John Morris.
Dr. John Morris.
Graduated from the University of Oklahoma.
Diplômé de l'Université d'Oklahoma.
I'm now the president of the Institute for Creation Research.
Je suis maintenant le président de l'Institut pour la recherche créationniste.
Here at ICR, we do research in this general subject of origins. How did we get here? Creation or evolution?
Et ici, nous recherchons justement sur les origines de notre monde. Comment nous sommes arrivés ici? Est-ce par la création ou par l'évolution?
Alors voilà, vous avez compris, nous sommes avec John Morris. Et c'est quelqu'un d'important, John Morris, parce qu'il est le fils d'Henry Morris, qui est l'un des pères fondateurs du mouvement créationniste aux États-Unis. Ça n'a pas toujours existé, ce mouvement, mais on va voir qu'il est toujours lié aux politiques. Reagan, dans les années 80, disait je ne descends pas du singe. Et par là même, il voulait plaire à cet électorat devenu majoritaire au moment où la Christian Coalition, les chrétiens évangéliques, sont entrés en politique à la fin des années 70. Jusque-là, les États-Unis, qui ont une constitution séculière, tenaient à distance l'influence religieuse sur le politique. Il y avait quand même une cloison plus ou moins épaisse, bien évidemment, mais qui existait. Là, elle disparaît, et c'est une poussée des évangéliques, quoi, en gros, sur le politique. À l'intérieur de ce mouvement se trouvent les créationnistes qui visent l'idéal d'une théocratie, bien évidemment, mais qui en attendant constituent une clientèle électorale déterminante dans la vie politique du pays. Évidemment, toutes ces choses-là, Monsieur Morris ne va pas nous présenter les choses de cette façon, il va nous présenter les choses d'une façon scientifique.
Here at ICR, we do research in this general subject of origins. How did we get here? Creation or evolution?
Et ici, nous recherchons justement sur les origines de notre monde. Comment nous sommes arrivés ici? Est-ce par la création ou par l'évolution?
We believe in creation, but we're also Christians. We believe in the Bible.
Voilà, nous, on croit à la création, mais on est aussi des chrétiens. Donc, on croit en ce que dit la Bible.
We have biologists here.
On a des biologistes.
Geneticists,
les généticiens,
geologists, physicists, astronomers,
scientifiques, astronomes.
But we do our research from a biblical perspective. We believe that the biblical history is true, and science must, if we do it right, support that.
Voilà. Mais on fait nos recherches dans une perspective biblique. On pense que ce que la Bible dit est vrai et que la science, si elle est juste, doit s'y conformer.
Any scientist who studies the human body sees an amazing engineering work.
Chaque scientifique qui étudie le corps humain voit une espèce de mécanisme extraordinaire à l'œuvre.
It is unscientific to say that these things happened by chance.
C'est pas scientifique de dire que tout ça n'est possible que par le hasard ou la chance.
Enfin, on a compris. Pour vous, à l'origine de tout et de toute complexité, il y a Dieu.
We at the Institute for Creation Research, when we see this design, we see it's far beyond what human ingenuity could produce.
On voit, quand on voit ce dessin à l'œuvre, on voit que c'est bien au-delà de ce que toute l'ingéniosité humaine peut produire.
Oui, mais ça, il y a des tas de gens, de foi, qui sont des chrétiens et qui sont évolutionnistes.
They're wrong.
Mais moi, ce que je dis, c'est s'ils croient en l'évolution, c'est là où ils se trompent.
Bon, ben c'est fini. Oui, c'est ça. Voilà. C'est sûr, tu comprends? C'est une chose comme ça. Ils ont tort. Et puis c'est tout, Antoine.
Voilà, ils m'ont trompé. On m'a trompé pendant 5 ans à la fac de Jussieu, où on m'a appris la physique.
We give master's degrees in physics.
Ils font des DEA en physique.
Est-ce que vous avez une preuve scientifique de l'existence de Dieu?
I think the fact that you are here is proof that there must be a God.
Le fait que toi, tu sois là aussi, Antoine, prouve l'existence de Dieu.
C'est une preuve scientifique.
I think it is wholly unscientific to think that it all happened by chance.
Je crois qu'il est hautement ascientifique de croire que ce n'est que le fruit du hasard.
Donc toute votre théorie scientifique se base sur un postulat qui n'est pas prouvé scientifiquement.
It depends on how you define science.
Ça dépend de comment tu définis la science.
Muséum national d'histoire naturelle, la Galerie de l'Évolution, Paris.
Mais l'origine des espèces, c'est-à-dire ce qui va heurter la conception qu'on avait jusque-là d'une origine telle que décrite dans la Bible. En quoi est-ce que Darwin s'oppose à la Bible ? La Bible contre Darwin, Darwin contre la Bible.
Darwin ne s'oppose pas nécessairement à la Bible, il ne le fait pas volontairement. Il regarde la nature avec les outils intellectuels du scientifique. À son époque, on ne fait plus appel à la transcendance au sein même de l'explication scientifique. Depuis à peu près déjà une bonne centaine d'années. Le XVIIIe siècle a reconsidéré en quelque sorte le contrat que la science passe avec la connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, même un peu du XVIIe, dès lors qu'on s'est mis à expérimenter vraiment, on a exclu du champ des sciences le recours à une transcendance omnipotente pour expliquer ce que l'on voit. S'il y a toute question que vous vous posez sur le monde réel, vous avez une réponse unique et omnipotente, c'est même pas la peine de commencer à faire une expérience.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Darwin, de son rôle et de sa théorie?
La déduction de Darwin, elle est la suivante, si on la ramasse de manière extrêmement courte. Darwin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une espèce, il y a de la variation. Il y a une aptitude naturelle des espèces à varier. On n'a pas tous la même tête, hein, et c'est ce qu'on appelle la variabilité, l'aptitude naturelle à varier. Deuxième constat, Darwin, il voit quoi ? Que les horticulteurs et les éleveurs sont capables d'emmener en quelque sorte les espèces là où ils veulent. En 10 000 ans, on fait du loup un teckel. Il y a donc
une aptitude naturelle des espèces à être sélectionnées. Même si c'est l'homme qui sélectionne, les espèces, elles se laissent sélectionner. C'est ce qu'on appelle la sélectionnabilité.
Ici, la galerie de l'évolution est entièrement illustre ce que vous êtes en train de dire.
En partie, oui. Oui. La question que posait Darwin, la question qu'il se posait, c'est pourquoi la nature n'est pas un grand bazar ? Pourquoi tout ce qui a membres a déjà des vertèbres ? Pourquoi tout ce qui a vertèbres a déjà crâne ? Il n'y a pas de vertèbres en dehors de ceux qui ont déjà un crâne. Eh bien, pour répondre à cette question, y a-t-il un agent dans la nature qui explique l'ordre qu'on y voit, l'ordre apparent ? Darwin fait un troisième constat, c'est que chaque espèce a en potentialité une aptitude naturelle au surpeuplement. Le 19e siècle est riche d'exemples. Quand on prend une espèce d'un milieu et qu'on le transporte sur un autre continent, il y a deux réactions. Soit l'espèce disparaît, soit au contraire, elle pullule. Une fois que vous avez fait ces trois constats, Darwin fait son voyage sur le Beagle entre 1831 et 1835.
En terre de feu.
Voilà. Il passe quand même au Brésil. Enfin, il fait à peu près une bonne partie de l'Amérique du Sud. Et puis ensuite, il contourne, il va aux Galapagos, etc. Lors de ce voyage, Darwin rencontre des milieux qui ne sont pas perturbés par l'homme. Darwin constate que moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces. C'est surprenant. En dépit de la capacité de chacune à surpeupler, elle ne surpeuple pas. Eh bien, justement, Darwin fait une déduction. Chaque espèce représente, pour chacune des autres, une limite. Et voilà cet agent sélectif sur lequel il s'interrogeait. D'où cette idée de sélection naturelle. Malheureusement, on dit sélection naturelle, on pourrait préférer comme mot succès reproducteur différentiel. Et ça serait à peu près pareil.
Institut de recherche créationniste, San Diego. Alors, convaincu, Daniel ?
La question, oui, parce que moi, je me pose trois questions. Je me pose trois questions. La première, c'est d'où je viens ? Où je vais ? Et entre les deux, quel sens ça peut avoir ? Alors, je sais que je viens de Pavillon-sous-Bois. Où je vais ? Tu vois, c'est quand même flou. Hein ? Et puis, quel sens ça a, tout ça ? Tu vois ?
Il y a des petits documentaires, des petites revues, des petites brochures pour répondre à des questions. Par exemple, c'est la question 197. Combien de temps a duré le septième jour ?
Mais oui, parce que toi, tu crois que c'est des jours de 24 heures. Mais non, ça peut être des jours de 3000 ans.
Le septième jour devrait durer plusieurs milliers d'années.
Voilà.
Alors, les enfants, s'il vous plaît, asseyez-vous par terre à côté de l'exposition de papillons. Est-ce que c'est pas amusant, cette pièce ? Ah oui, il y a plein d'animaux.
This is a fun room because now God is going to fill the earth that he's made.
Dieu va maintenant remplir le monde qu'il a créé. D'abord, il a rempli la mer. Avec tout ce qui vit dans la mer. Alors, qu'est-ce qui vit dans la mer?
The water. Yes.
Fish.
Fish.
Sharks.
Sharks. Mm-hmm. Seahorses, that's right. Thousands and millions of things live in the water.
Eh, c'est vrai que c'est séduisant ce qu'on raconte là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, cela dit, notre musée d'évolution, la galerie d'évolution, à Paris, muséum d'histoire naturelle, est très très belle aussi. Et on y apprend énormément de choses, mais peut-être pas ce que nous dit maintenant John Morris. Moi, je voudrais savoir ce que ça implique dans la vie aujourd'hui.
I think the evolution way of thinking impacts every area of life.
Je pense que la manière de penser de l'évolution a des conséquences sur tous les aspects de la vie.
Darwin's book Origin of Species. Hitler picked up that book and he says finally there is scientific justification for his way of thinking.
Par exemple, l'évolution, l'origine des espèces de Darwin, ce livre-là, Hitler l'a pris. Et il y a trouvé enfin la preuve de ce qu'il cherchait sur l'inégalité des races.
Donc, Darwin engendre Hitler.
Exactly.
Darwin rend Karl Marx possible.
In fact, Karl Marx asked Darwin if he could dedicate his book to Darwin.
En fait, Karl Marx a demandé à Darwin s'il pouvait lui dédier son livre, Das Kapital.
Das Kapital.
Darwin donne Freud aussi.
I think so.
Darwin, Rockefeller, etc.
These are presented in the museum.
Oui,
yes.
C'est ce qu'on montre dans le musée.
Oui, oui, oui.
All of that is the might makes right, struggle for existence. These are Darwin's phrases.
Oui, c'est toutes les phrases de Darwin sur la lutte pour la survie, par exemple.
I really think evolution is a cult of death.
Je crois vraiment que l'évolution est un culte de la mort.
The strong overcomes the weak.
Le plus fort écrase le plus faible.
Guillaume Lecointre, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
Comment se sera reçu cette, les théories de Darwin en son temps, c'est-à-dire quoi, la moitié du 19e?
Il y a un dévoiement du discours de Darwin par ses contemporains. Alors, quel est ce dévoiement? Les implications de l'évolution du vivant sur les origines de l'homme, eh bien, Darwin n'en parle pas tout de suite, ou du moins, il n'est pas extrêmement loquace sur ces questions avant 1871. Entre 1859, date de la sortie de sa théorie, publication de sa théorie, l'origine des espèces, et 1871, date à laquelle il va vraiment prendre parole sur les implications que cette théorie a sur l'origine des sociétés humaines et même de la morale, eh bien, il y a un blanc de quelques années pendant lequel l'un de ses contemporains, Spencer, Herbert Spencer, va faire de la théorie de Darwin, qui n'est qu'une théorie scientifique, qui est humble en cela, une théorie qui n'est pas figée, qui est améliorable toujours, eh bien Spencer va en faire une philosophie, qu'on va appeler l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme de Spencer va transférer brutalement le succès reproducteur différentiel, hein, ce que j'appelais la modification des espèces par le succès reproducteur différentiel, il va le transposer dans les sociétés humaines. Et il va faire en quelque sorte cette espèce d'ode à la lutte pour la vie, mais cette fois-ci dans les sociétés humaines pour légitimer un statu quo économique, entretenir les plus forts, ne pas perdre son temps à, en quelque sorte, à porter secours aux plus faibles, etc.
Donc, et c'est là qu'un certain nombre de théories scélérates prendront leurs origines.
Exactement.
Je pense au nazisme, etc.
Alors, ce qu'on appelle le darwinisme social, malheureusement, encore une appellation malheureuse, on le doit à Spencer, à Herbert Spencer. Darwin s'exprime à l'opposé de Spencer sur ces questions-là. Et c'est malheureux. Ce qu'on appelle le darwinisme social, en fait, Darwin n'y a jamais donné aucun crédit. Il faudrait appeler ça, normalement, un spencerisme.
Institut de recherche créationniste, San Diego.
My name is Susan Witt.
Susan. And this is your girl?
Yes, my daughter Savannah, she's 5.
Savannah, ma fille qui a 5 ans.
Alors vous êtes contente de la visite?
Absolutely loved it.
J'ai vraiment adoré.
C'était déjà vos idées ou vous êtes en train de découvrir?
I knew about it. I'm a native San Diegan. I grew up here and was always familiar with the Institute of Creation Research.
Non, moi je suis de San Diego, donc j'ai grandi ici et j'ai toujours connu cet institut de recherche créationniste.
Vous vous considérez comme créationniste vous-même?
Yes, I'm a Christian. I do believe in creation.
Oui, je suis une chrétienne et je crois à la création.
And as a homeschooler, I want to be able to teach my daughter not only from the Bible, but also the science that backs up the Bible and backs up what we believe.
Et comme je fais l'éducation à domicile, je voulais apprendre à ma fille aussi, pas simplement la version de la Bible, mais aussi des scientifiques qui lui disent à quel point la Bible a raison.
Vous faites l'instruction à domicile?
Yes, I do.
Ah, c'est-à-dire que vous ne la mettez pas dans l'enseignement public?
No, not at all.
Et pourquoi? À cause de l'évolutionnisme? C'est-à-dire que vous voudriez que le créationnisme soit enseigné à l'école?
Both of them, at least, and let the students choose from there.
Voilà, pour que les enfants puissent après choisir en connaissance de cause entre les deux théories.
Alors, donc, aujourd'hui, quels sont vos combats? Par exemple, vous parlez d'éducation.
Scientifically, we must show that evolution is not good science.
On doit déjà montrer scientifiquement que l'évolution n'est pas de la vraie science.
But I think the main point is that evolution is a religion.
Mais surtout, c'est montrer que l'évolution est une religion.
It's not a fight of science versus religion.
C'est pas un combat entre la science et la religion qu'on est en train de montrer.
It's a fight of two religions and the science which supports each one.
C'est deux religions qui se combattent l'une et l'autre, et qui utilisent chacune la science pour appuyer leur thèse.
Mais répondez à ma question. Je voudrais que vous nous disiez quels sont vos combats aujourd'hui en matière d'éducation.
Good science in the school.
La bonne science dans l'école.
I would like to get religion out of the schools.
Je voudrais qu'on sorte les religions de l'école.
Evolution is a religion.
L'évolution est une religion.
Evolution is not good science.
Ce n'est pas de la bonne science.
Let's get good science in the science classroom.
Allons apprendre de la bonne science dans les classes, dans les cours de science.
Donc, en matière d'éducation actuellement, pour essayer d'aller un peu plus droit sur les réponses et non pas tourner autour du pot, en matière d'éducation, vous soutenez la dame qui ne met pas sa fille à l'école ou pas?
The public schools teach, without controversy, the religion of Darwinism.
Les écoles publiques, dans les programmes scolaires, ils enseignent sans aucune controverse la religion du darwinisme.
Yes, and I would like to see that changed.
Et ça, c'est vrai que je voudrais que ça change.
D'accord. De quelle façon?
I would like to see science taught in science classrooms.
On enseigne la science dans les cours de science.
Everything about the human body.
On enseignerait tout le fonctionnement du corps humain.
You teach how it works, the genetics
of it. Comment
ça marche,
la génétique.
The diseases of it,
les maladies, comment les guérir.
But you don't teach the origin of it. That's a different subject.
Mais pas les origines de tout ça. Ça, c'est un autre sujet.
We disagree about history.
On n'est pas d'accord sur l'histoire, sur ce qui vient avant.
God created humans as humans. They did not come from the animals.
Moi, je crois que Dieu a créé les humains en tant qu'humains et qu'ils ne viennent pas des animaux.
This is supposed to make you feel like you're on a room in the ark. You're surrounded by wood. It was sealed with pitch.
On est dans l'arche de Noé, entouré de bois en mer.
Can you hear something?
Vous entendez quelque chose?
It sounds like water.
Sounds like water. What else?
I know.
En fait, ici, c'est une Bible à trois dimensions, quoi. C'est ça?
Ouais. Ça fait longtemps que ça existe. Toutes les représentations qu'on avait jusqu'aux lumières, c'était ça. Là, c'est le grand bout en arrière d'avant les lumières.
Guillaume Lecointre, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
À partir de quand les thèses créationnistes se développent et viennent combattre les thèses évolutionnistes?
Oui, alors effectivement, c'est aux États-Unis que l'affaire a pris le plus de force, et puis dans une bonne mesure aussi en Australie, hein, des pays qui donc sont souvent habités par un fondamentalisme protestant, enfin une société dans laquelle le fondamentalisme protestant a de puissants leviers d'action. Oui, alors à partir de quand? Au début, le créationnisme tel qu'il existait à la charnière 19e-20e siècle, même jusque dans les années 20, c'est un créationnisme négateur, c'est-à-dire qu'on va nier le contenu de la science. Alors, il arrive un moment où les créationnistes, notamment aux États-Unis, sont en perte de vitesse. Ils arrivent à faire passer dans les années 20 et 30 des lois anti-enseignement de l'évolution dans les États du Sud. Dans les années 60, aux États-Unis, on annule ces lois.
Et donc là, les créationnistes sentent un besoin d'un rebond, en quelque sorte. Et le rebond stratégique, ça va être le programme de Maurice et Gish, les deux plus connus des créationnistes mimétiques, vont dire « ne niez plus la science ». Vendez plus de science, soyez plus scientifiques que les scientifiques. Alors leur programme, c'est de prouver scientifiquement le contenu littéral du texte sacré. On va simuler la science de manière à convaincre les citoyens. Et puis, avec l'arrivée de Ronald Reagan en 79, Reagan s'exprime en 80 sur les théories de l'évolution, sans aucune compétence d'ailleurs. Il dit...
Je préfère descendre d'Adam et Ève que d'un singe.
Voilà, donc il envoie un clin d'œil extrêmement puissant à son électorat conservateur qui lutte contre la laïcité américaine. Et dans les mêmes États du Sud, de nouveaux procès ont lieu contre l'enseignement de ce qu'on appelle un balance treatment, un enseignement balancé, c'est-à-dire d'enseigner à 50% la théorie de la création, comme si la théorie de la création était une théorie scientifique, et à 50% la théorie de l'évolution, vous voyez. Et donc, le balance treatment, il fait l'objet d'un procès fameux dans l'Arkansas en 1981, et il est rejeté. Donc, deuxième défaite pour les créationnistes, il va falloir changer encore de stratégie. Changement de stratégie, dans les années 90, une nouvelle forme de contestation de la théorie de l'évolution voit le jour à travers ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire ID, soi-disant théorie scientifique du dessin intelligent. Alors que les créationnismes antérieurs étaient très axés sur le monde protestant, l'intelligent design, il vous laisse libre de mettre ce que vous voulez dans la case transcendance. Vous pouvez y mettre Bouddha, vous pouvez y mettre...
Choisissez votre créateur,
exactement. En reprenant une vieille idée, c'est l'horloger du théologien William Paley, 1802. William Paley est théologien anglican. En 1802, il émet cette idée... Je trouve une montre par terre, j'ouvre la montre, je constate que chaque pièce de la montre a une forme rigoureusement et merveilleusement agencée à la fonction qu'elle remplit. J'en induis une conception intelligente de cette montre, j'en induis l'existence d'un horloger. Et il transpose cette image dans la nature, directement. C'est une vieille idée, il n'y a rien de nouveau. Seulement, avec l'intelligent design, on vous déguise cette idée de biologie moléculaire, de biochimie. On dit « Ah, mais la régulation génétique, c'est trop compliqué pour pouvoir être expliqué par variation-sélection. La régulation biochimique d'une cellule, c'est trop compliqué. » Donc on descend ça à des niveaux d'intégration très petits. On descend ça au niveau infracellulaire pour que ça paraisse scientifique. Et sur les sites web, des élèves de nos classes s'y font prendre. Ils ont l'impression que c'est scientifique parce qu'on parle de biologie moléculaire.
Muséum national d'histoire naturelle, Paris.
Derrière ces idées créationnistes, là, vous parlez de Reagan, vous allez sans doute nous parler de Bush, qui lui aussi est créationniste, avec un clin d'œil à son électorat. 60% des États-Unis sont persuadés que Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc on voit bien que s'il y a 60% des États-Unis qui croient ça, il est tout à fait normal qu'un candidat essaye de séduire cet électorat. C'est tout simple.
Oui. C'est quand même dans la mouvance politique de Bush que le Discovery Institute s'est formé. Cet institut qui a donné naissance à l'idée de dessin intelligent telle qu'elle prend forme dans les années 2000. C'est-à-dire, c'est quand même ce qu'on appelle un think tank, c'est une boîte à idées conservatrice où on propose une science mise au service de la théologie pour que la science se soumette en quelque sorte à celle-ci et soit un des leviers de la mise en place de ce qu'on appelle une théocratie, c'est-à-dire d'un État qui est mu par des principes et une organisation sociale et politique religieuse. Donc allez voir, je vous renvoie vers le fameux Wedge Document, le plan d'attaque de ce think tank conservateur, et ils veulent que toute la vie politique, culturelle et sociale du pays soit habitée par l'idée de Dieu dans un horizon de 15 ou 20 ans, science comprise.
science comprise. Donc on est là dans un véritable programme politique conservateur de faire des États-Unis d'Amérique une théocratie.
C'était un reportage avec Guy Van Til et Antoine Chao, première diffusion le 5 septembre 2008. Merci à Guillaume Lecointre, Olivier Brosseau et Flore Geffroy. À lire L'Amérique entre la Bible et Darwin de Dominique Lecourt aux Presses universitaires de France et Les créationnismes, une menace pour la société française d'Olivier Brosseau et Cyril Baudouin aux éditions Sileps. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Coy Nguyen et Franck Adhérer. Assisté d'Agnès Lebot, chef du répondeur Marina Touillez. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, l'email daniel.mermet@radiofrance.com ou le bon vieux courrier postal Daniel Mermet, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016, Paris.
La Fédération française de cardiologie nous parle du donneur-cœur.
Les maladies cardiovasculaires, c'est 400 morts par jour en France.
Professeur Beaune.
C'est encore trop. Nous sommes inquiets. Nous savons que les maladies cardiovasculaires, après avoir régressé, vont augmenter dans notre pays. On compte aujourd'hui plusieurs millions de malades. Mais heureusement, la recherche avance. On sauve des vies. On améliore les traitements.
Soutenons la Fédération française de cardiologie, fedecardio.com.
France Inter, il est 16h. Les informations, Corinne Audouin.
Une lettre piégée adressée à Nicolas Sarkozy a été neutralisée à Athènes. A priori, rien à voir avec Al-Qaïda et les colis découverts vendredi en provenance du Yémen. Les auteurs de l'envoi sont deux hommes de nationalité grecque, soupçonnés d'appartenir à la mouvance anarchiste. En fin de matinée, un premier colis déposé dans une société de messagerie express d'Athènes et destiné à l'ambassade du Mexique avait explosé. Une employée a été légèrement blessée. La police a alors déclenché une vaste opération qui a permis l'arrestation de deux hommes en possession de trois autres colis. Deux étaient adressés à des ambassades et l'un au président français. Selon le porte-parole de la police grecque, l'affaire apparaît de fait assez ridicule puisque ce paquet n'aurait jamais pu atteindre son destinataire. Au Yémen, 14 membres présumés d'Al-Qaïda se sont rendus aux autorités dans le sud du pays. C'est ce qu'indique le ministère yéménite de la Défense. Al-Qaïda est soupçonné d'être à l'origine de l'envoi des deux colis piégés interceptés vendredi. L'Allemagne a suspendu les vols de voyageurs et de marchandises depuis le Yémen. Les autorités ont-elles annoncé une opération de fouille exceptionnelle de toutes les cargaisons qui quittent le Yémen? Et à contre-courant de ce renforcement de la sécurité, le patron de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair appelle à un assouplissement de ces mesures. Selon Michael O'Leary, elles sont inefficaces et absurdes. Il cite par exemple l'interdiction des bouteilles d'eau en cabine. Après l'attaque sanglante qui a fait 50 morts dans une église de Bagdad hier, le pape Benoît XVI dénonce une violence absurde et féroce. Le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubaker, condamne le massacre de fidèles chrétiens en rappelant que l'islam n'est nullement l'ennemi du christianisme. Cette attaque, revendiquée par un groupe de la mouvance d'Al-Qaïda, est l'une des plus meurtrières commises contre les chrétiens en Irak. Depuis la guerre menée par les Américains en 2003, les chrétiens sont la cible de nombreux actes de violence. 300 000 ont quitté le pays ces 7 dernières années. L'Iran reporte le procès des randonneurs américains. Deux hommes et une femme avaient été arrêtés en juillet 2009 à la frontière avec l'Irak et accusés d'espionnage. La jeune femme Sarah Shourd, qui était malade, a été libérée en septembre. Mais Shane Bauer et Josh Fatal sont toujours emprisonnés à Téhéran. Leur procès devait s'ouvrir samedi. Le procureur général iranien vient donc d'annoncer son report. Le fils de la femme de 49 ans, tuée hier en pleine rue à Paris, a reconnu être l'auteur des coups de feu. Affecté par le divorce de ses parents, le jeune homme a tiré sur sa mère en début d'après-midi dans le 20e arrondissement de la capitale. Il s'est rendu de lui-même à la police. Il était l'une des figures du journalisme politique. Pierre-Luc Séguillon est mort à l'âge de 70 ans d'un cancer du poumon. On se souvient qu'il co-présentait avec Anne Sinclair Questions à domicile. C'était sur TF1. Conséquence des fortes pluies tombées ces dernières 24 heures sur la Côte d'Azur. Une centaine de personnes ont été évacuées d'un quartier de Villeneuve-Loubet par crainte d'une crue du Loup, le cours d'eau qui traverse la commune. Finalement, les habitants devraient pouvoir regagner leur domicile ce soir. La rencontre de la 11e journée de L1 Monaco-Bordeaux, qui avait été reportée dimanche en raison de la pluie, se jouera demain à 19h. En revanche, on ne connaît pas encore la date du match Marseille-Rennes déprogrammé samedi.
Êtes-vous lost en cas d'urgence avec vos friends?
Charlotte Lipinska.
Ce soir, voulez-vous sortir avec moi? Se penche sur l'importance et l'innovation des séries télé. Avec Laure Limongier, Guillaume Fédoux pour l'ouvrage Écrivain en série, ainsi que Monsieur Série Télé, le journaliste Alain Carazé.
Voulez-vous sortir avec moi en direct et en public du Café des Œillets du Théâtre de la Ville, ce soir sur France Inter à partir de 23h.
On vous attend.
Entrée libre et gratuite à partir de 22h30, dans la limite des places disponibles.
France Inter présente Le Dernier Voyage de Tania, un film d'Alexei Fedorchenko, prix de la critique internationale au Festival de Venise. Aux confins de la Russie, selon les rites ancestraux du peuple Méria, Miron et Aïste font leurs adieux à Tania, la femme qu'ils ont tous deux aimée. Au cinéma le 3 novembre. Retrouvez Le Dernier Voyage de Tania dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
En soirée d'ouverture du cycle Valère Novarina, France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Valère Novarina par Guillaume Gallienne le jeudi 4 novembre à 20h au Théâtre de l'Odéon. Chez Novarina, c'est comme si chaque mot devenait un nom propre. Sa langue fait corps, gronde et se métamorphose, charriant des histoires intimes ou collectives. Retrouvez le cycle Valère Novarina dans les émissions de France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon, c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, en ce jour de Toussaint qui se mêle un peu par avance à la fête des défunts, puisque beaucoup d'entre vous vont sur la tombe de ceux qui sont proches et qui ont disparu néanmoins aujourd'hui, parce que c'est un jour de congé. Et hier c'était la Saint Wolfgang. Alors Wolfgang, bien sûr, on pense à un surtout, à Mozart. Mozart qui a connu la mort de près, ses propres frères et sœurs, ses enfants. La mort rôdait énormément au XVIIIe siècle et après même. On n'avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui, je le dis toujours, et l'espérance de vie était vraiment très très courte. Mozart à 17 ans est déjà un jeune homme tout à fait fameux, qui a déjà aussi un métier complet. Il écrit son premier concerto pour le clavier, c'est plein d'une rare assurance, d'une audace tout à fait extraordinaire. Il est à Salzbourg, nous sommes en décembre 1773. Thank you.
Thank you.